Merci d'écouter RTL, il est 12h30.
RTL. J'ai toujours considéré que le métier d'avocat était une collaboration à la vérité. N'écoutez pas l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Elle est une prostituée qui tire le juge par la manche.
12h30, 13h30.
Richard Berry.
Richard Berry ?
Oui, Richard Berry.
Et l'invité du journal inattendu sur RTL.
Avec Vincent Parisot.
C'est pas le moment de devenir sensible.
Bonjour Richard Berry.
Bonjour.
Merci de prendre pour une heure les commandes de ce journal inattendu. En tenue de ville, hein, même si depuis plus d'un an vous portez la robe. Elle vous va d'ailleurs très bien, cette robe.
Merci.
D'avocat. Dans laquelle vous vous glissez chaque soir jusqu'au 1er décembre à Paris au Théâtre Libre. Et ensuite, ce sera dans toute la France pour interpréter les grandes plaidoiries des ténors du barreau. Ces mots, ces phrases, ces idées qui ont résonné au-delà des prétoires pour faire évoluer nos lois et faire évoluer la société française. Des plaidoiries historiques accueillies au sein de la Cour européenne des droits de l'homme. C'était le mois dernier et ce sera tout à l'heure le reportage inattendu. Et de l'inattendu, nous devrions aussi en avoir après 13h avec votre invité, le philosophe Raphaël Enthoven. Mais avant les infos que vous pourrez commenter si vous le souhaitez dans une minute, Richard Berry, ce n'est ni une plaidoirie de la défense, ni un réquisitoire. C'est maintenant l'heure, normalement, de l'autoportrait, un regard porté sur votre vie, sur votre carrière. Mais je crois qu'il ne vient pas de vous.
Non, parce que moi, j'ai beaucoup de mal à parler de moi-même comme ça.
C'est pourtant ce qu'on va essayer de faire pendant une heure.
Voilà, mais par pudeur ou par timidité, je ne sais trop quoi.
Oui.
Quelqu'un, je ne sais pas qui, a eu l'idée de demander à une autre partie de moi-même, qui est ma femme, mon double, d'écrire un texte et qu'elle a écrit sans m'en parler d'ailleurs, et que je vais vous lire, c'est ça ?
Avec grand plaisir.
Alors voilà, donc ma femme.
Richard
Pascal,
Berry, vu par sa femme.
Voilà, Pascal Louange.
Oui.
Pour être passionnant, il faut être passionné. C'est certainement la phrase qui résume le mieux cet homme que j'aime et que j'ai épousé, bien évidemment, pour son côté bricoleur et son don pour la danse. Là, elle se fout de moi, évidemment. Sans oublier son incroyable fou quand il s'agit de passer l'aspirateur. Ça, c'est vrai. Richard se passionne donc pour le théâtre dès son plus jeune âge et entre au conservatoire, d'où il ressortira avec le premier prix. Après un passage à la Comédie Française non concluant, il entame sa brillante et inénarrable carrière cinématographique. Il tourne La Gifle avec Lino Ventura et se prend une claque. Puis Mon premier amour avec la sublime Anouk Aimée et Le public l'aime. Sa carrière est lancée, la liste serait évidemment trop longue à énumérer, et après des centaines de films ou autres pièces de théâtre, c'est vers ses premiers amours qu'il revient actuellement en apothéose avec Plaidoirie, où il porte la robe presque aussi bien que moi et offre une prestation de comédien absolument sublime, au point de l'avoir joué outre-Atlantique et jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Quelle plus belle récompense, mais aussi et surtout, c'est un homme généreux, assez introverti, honnête et droit, un ami fiable et aimant, un mari en or et un extraordinaire papa. Pascal Louange.
Ça doit vous toucher évidemment beaucoup de lire ces mots de votre femme. Introverti, vraiment ?
Oui. J'ai beaucoup de mal à me livrer. J'ai fait des progrès.
Oui. Bon, on va essayer de voir ça.
Grâce beaucoup à elle, d'ailleurs, et puis aussi avec le temps. Mais j'ai du mal.
Ouais. On va parler du temps qui passe, effectivement. Vous passez l'aspirateur, alors ?
Moi, j'adore.
C'est vrai ?
Ouais, j'adore.
Il faut que ce soit clean, net, à la maison.
Oui, j'adore. C'est vraiment, pour moi, c'est pas une corvée. Je comprends pas que ce soit une corvée. Ne serait-ce que pour l'esprit, ça fait du bien.
Mais apparemment, planter un clou, en revanche, c'est plus compliqué.
J'essaye de le faire, je suis pas très doué.
Bon, en tout cas, vous allez pouvoir commenter l'info, l'actualité de ce 9 novembre, évidemment, Richard Berry. Actualité dominée par l'Église qui ouvre le porte-monnaie pour reconnaître la souffrance des victimes des prêtres pédophiles. Les évêques viennent de voter le principe d'une somme forfaitaire. L'actualité, c'est aussi la nouvelle affaire Polanski à quelques jours de la sortie de son J'accuse sur l'affaire Dreyfus, le cinéaste accusé par une femme, aujourd'hui âgée de 62 ans, de l'avoir violée en 1975. Le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, des cérémonies très modestes aujourd'hui dans la capitale allemande, Angela Merkel originaire d'Allemagne de l'Est, vient d'ailleurs de prononcer un discours. Le sport avec la finale de la Fed Cup de tennis, un point partout entre la France et l'Australie. Pour la suite, demain, Caroline Garcia devra se remettre du 6-0, 6-0 encaissé ce matin face à la numéro 1 mondiale. Le foot, un partout entre Nice et Bordeaux hier soir, à 17h30 cet après-midi, Brest, PSG, les Parisiens seront privés de Mbappé. Et puis alors, le temps, Valérie Quintin, il faisait froid ce matin.
Ouais, ça pique. Hein.
Ouais, ça piquait un petit peu, ça se gâte par l'ouest.
Ouais, on a des pluies orageuses qui sont arrivées déjà sur le Cotentin et sur la pointe bretonne et naturellement, elles ne vont pas rester là, ça va concerner toute la moitié ouest avant la fin de la journée. Ça ira donc de la Haute-Normandie jusqu'au Pays Basque avec des pluies soutenues, de fortes rafales de vent près des côtes. À l'avant de tout cela, sur une large moitié est, ça va, on a encore un petit peu de soleil, ça ne va pas durer toute la journée, mais enfin, ce ne sera pas épouvantable. Et puis le soleil, lui, se maintiendra près de la Méditerranée, sauf en Corse où là, par contre, il y a des orages et ça va encore s'intensifier aussi cet après-midi. Les températures, ça vole pas très très haut non plus au meilleur de la journée, pas plus de 8 degrés à Saint-Dizier, 9 à Paris et Beauvais, 10 à Lille et Lyon, 11 degrés sur Valence, 12 à Carcassonne, 14 à Biarritz et 16 à Nice.
Voilà, et comme tous les samedis, vous en avez terminé jusqu'à ce soir, puisqu'à 13h, c'est Richard Berry qui sera Monsieur Météo. Tenez, d'ailleurs, je vous la donne pour que vous puissiez réviser.
Le journal inattendu sur RTL.
C'est une grande première dans l'histoire de l'Église de France. Les évêques réunis à Lourdes ont voté ce matin en faveur d'un dispositif qui prévoit de verser une somme d'argent unique, forfaitaire, aux victimes des prêtres pédocriminels. La conférence des évêques souligne que ce n'est pas une indemnisation, parce qu'une indemnisation, ça dépend de la justice. Ce n'est pas non plus une réparation, c'est un moyen de reconnaître l'agression subie et le silence de l'Église. Patrick Tégéraud, vous êtes à Lourdes pour RTL. Le montant de cette somme n'a pas encore été annoncé, je crois.
Oui, ce sera la prochaine étape, fixer le montant de cette somme qui sera forfaitaire, unique et qui fait partie d'un dispositif de reconnaissance de la souffrance des victimes qui a été décidé ce matin par les évêques. Et ce sont eux qui iront à la rencontre des victimes pour leur proposer. Éric de Moulin-Beaufort préside la conférence des évêques de France.
La proposition d'une somme d'argent est nécessaire parce que c'est ce qui marque que nous sommes concrètement engagés, que ce ne sont pas que des mots. Alors il y a des personnes victimes qui ne voudront pas d'argent, il y en a certaines qui ont dit que elles ne veulent pas, ça les choque même qu'on puisse en parler. Mais d'autres ont manifesté qu'elles le souhaitaient, parce que c'est ce qui permet le plus de marquer que nous sommes concrètement engagés dans l'ensemble de ce dispositif.
Il ne s'agit donc pas d'une indemnisation, mais d'une somme symbolique dont le montant sera fixé en avril lors de la prochaine conférence des évêques. Et elle sera financée par un appel aux dons spécifiques auprès des membres du clergé, des religieux coupables quand c'est possible, et bien sûr auprès des fidèles en général.
Patrick Tégéraud à Lourdes pour RTL. Et puis dans l'actualité, il y a aussi cette nouvelle affaire Polanski, révélée par le journal Le Parisien. Valentine Monnier, une ancienne comédienne devenue photographe, raconte précisément le viol dont elle aurait été victime en 1975 dans le chalet du cinéaste à Gstaad. Des accusations précises qu'auraient confirmé plusieurs témoins de l'époque selon l'enquête de nos confrères du Parisien. Alors les faits sont aujourd'hui prescrits, mais Valentine Monnier explique dans une lettre publiée par le journal pourquoi elle sort du silence aujourd'hui. Le choix du titre de Roman Polanski sur l'affaire pour son film sur l'affaire Dreyfus, J'accuse, a semble-t-il été un détonateur pour elle. Alors le réalisateur dément formellement et son avocat, Maître Timim, précise qu'il ne fera aucun commentaire sur une affaire qui est prescrite. L'actrice Adèle Haenel, qui a elle-même accusé récemment un réalisateur, lui apporte son soutien dans les colonnes du journal Le Monde. Comment vous réagissez à cette nouvelle affaire Polanski et puis à ces accusations assez multiples dans le monde du cinéma en France, mais pas seulement?
J'ai beaucoup de compassion pour toutes les femmes qui ont subi ces agressions sexuelles, en particulier évidemment récemment pour celle dont vient de parler Adèle Haenel, ouais. qui dont le témoignage m'a bouleversé, hein. J'ai aussi et je comprends très bien ce que peut avoir vécu cette femme Valérie Monnier dont vous parlez. En même temps, je peux pas m'empêcher de penser à cet homme qui a bientôt 90 ans qui vit cette punition
depuis des années. Parce qu'il y a eu d'autres affaires.
Parce qu'il y a eu d'autres accusations, mais là pas de viol, hein, mais de ce qu'on dit d'abus sexuels sur des mineurs. Je pense à lui parce que aujourd'hui il a 90 ans, quelque chose comme ça, ou il en approche, ou même peut-être plus, je sais plus. Enfin, et je me dis que ça doit être terrible à vivre, et terrible à vivre aussi pour ses enfants. Donc là, j'ai de la compassion pour tout le monde, si vous voulez. Voilà, je peux pas accepter évidemment qu'on puisse abuser comme ça impunément d'une femme, et comme ça m'a bouleversé l'histoire d'Adèle Haenel, et la façon dont elle le raconte avec cette intelligence, cette clairvoyance, ce courage dont elle a fait preuve au moment où elle l'a fait avec Mediapart. Et en même temps, je me dis que en ce qui concerne Roman, j'ai envie qu'on le laisse tranquille, quoi, un petit peu.
On marque une courte pause dans ce journal inattendu de Richard Berry. Et dans un instant, on va à Berlin pour des commémorations des 30 ans de la chute du mur. Très profil bas, vous allez voir. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL avec Richard Berry et Vincent Parisot.
En Allemagne, ce sont des commémorations sans grand enthousiasme qui ont débuté hier pour le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, d'ailleurs, quitter le pays dès hier soir. Emmanuel Macron, lui, n'arrivera que demain soir. Et aujourd'hui, exactement 30 ans après jour, une cérémonie très simple vient d'avoir lieu. On est sur place avec l'envoyé spécial d'RTL, germanophone, Anne Lehenhaf. Bonjour.
Bonjour, guten Tag.
Ah, guten Tag, voilà. Cérémonie très simple avec prise de parole d'Angela Merkel dans la chapelle de la réconciliation en présence de quelques représentants des pays de l'Est.
Oui, la cérémonie vient de se terminer. Angela Merkel a déposé une bougie au mémorial des victimes. Cérémonie très sobre. Hein. Angela Merkel a été d'abord entourée de plusieurs jeunes Européens. Elle a piqué des roses de toutes les couleurs dans ce mur qui coupait la ville en deux il y a 30 ans. La chancelière a ensuite fait un court discours pour rappeler l'importance de la liberté, des droits de l'homme et de la démocratie. Un combat européen plus actuel que jamais, a-t-elle dit. Alors que pendant ce temps, à l'extérieur, beaucoup de touristes parcourent l'ancien tracé du mur. Axel a une mère française, un père allemand de l'Est, anciennement allemand de l'Est. Il est venu de Nice avec ses deux fils de 11 et 13 ans pour leur expliquer ce que c'était que le mur. Lui se souvient très bien de ce mois de novembre 1989.
On a découvert en fait un pan de notre famille qu'on ne connaissait pas. À l'époque, on n'avait pas le droit de connaître nos cousins. C'était hier en fait, c'est ma génération, c'est poignant. Et donc on a envie qu'ils aient bien ça à l'esprit et qu'ils se rendent bien compte de l'importance du moment.
Ouais, le mur, il est reconstitué là. Avec les pics, c'est impressionnant quand même. Je me dis que j'ai de la chance d'habiter là où je suis.
Et la grand-mère est là, elle aussi, et ce soir, le reste de la famille arrive. Ils seront 10 à table pour célébrer la réunification de l'Allemagne et de toute leur famille.
Anne Lehenhaf, envoyé spécial RTL à Berlin. Vous souvenez, Richard Berry, du 9 novembre 89?
Bien sûr, je me souviens même du temps qu'il faisait à Paris.
Ah bon?
Vous savez, il y a des moments comme ça, comme quand les tours, le World Trade Center, etc. On se souvient parfaitement, les attentats du Bataclan. Il y a des moments clés. Et moi, je me souviens très bien du 9 novembre.
C'était un choc parce qu'on avait vécu depuis
tout le temps. On a grandi
avec
ce mur.
La guerre froide, le mur, et donc un monde basculait.
Ah oui, et c'était... D'ailleurs, c'était lié à beaucoup d'espoir. Mmh. C'était un symbole. Mmh. C'était la perestroïka. C'était Gorbatchev. On pensait que ça allait faire évoluer énormément le rapport de la Russie au monde. Mmh. Enfin, quand on s'est un tout petit peu trompé.
On en est revenu. Deux mots de sport. Tout d'abord, le tennis. La finale de la Fed Cup à Perth en Australie. Après les deux premiers simples, les Françaises et les Australiennes sont à égalité un point partout. Et pour le deuxième match, Caroline Garcia a vécu un véritable enfer face à la numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, score final 6-0. 6-0, ça a duré moins d'une heure. La Française n'a réalisé que 3 points gagnants. Vous êtes sportif, vous jouez au tennis?
Je joue un tout petit peu au tennis, mais je trouve que...
Là c'est terrible.
Là, c'est le plus
6-0, 6-0, on a du mal à s'en remettre.
Ça peut arriver, hein.
Ça peut arriver, même aux très bonnes, parce que Caroline Garcia, c'est quand même pas n'importe qui. Football encore honneur aux dames. France-Serbie, 21h à Bordeaux, éliminatoire de l'Euro. Le match, vous allez le suivre sur W9. Et puis la Ligue 1, hier soir, match nul, un partout entre Nice et Bordeaux. 17h30, Brest-PSG, les Parisiens sans Mbappé. 4 autres matchs ce soir dans le multiplex RTL de Parisiens. Aujourd'hui en France, le choc de la 13e journée, ce sera demain soir, Marseille-Lyon.
Le reportage inattendu.
Voilà, consacré à un événement qui s'est déroulé le mois dernier à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Ces plaidoiries, vos plaidoiries, Richard Berry, vous les avez interprétées dans l'immense salle de cette juridiction internationale. J'imagine que c'était impressionnant.
Bah oui, très impressionnant. C'est quand même la Mecque de la justice. Mmh. Donc de jouer devant des juges, de jouer devant
c'était
des juristes.
C'était la première fois.
C'était la première fois. Je pense que ce sera la dernière.
Ouais.
C'est pas du tout la spécialité de la Cour européenne de recevoir des spectacles. Mais ils avaient envie de gratifier un peu le fait que j'ai mis en valeur la plaidoirie, les avocats, la justice.
Représentation donc exceptionnelle à laquelle avait assisté Yannick Collin.
Dans sa robe noire d'avocat, Richard Berry est seul, devant les 49 sièges bleus des juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, ils sont dans le public pour écouter ses plaidoiries.
Le service des questions juives répond à un ordre allemand pour un convoi qui doit partir le jour même et la machine va se mettre en marche. Les trains partiront à l'heure. On aurait pu imaginer qu'ils partent en retard, mais non, ils partiront tous à l'heure. C'est ça, la machine administrative française qui se met en marche.
C'est l'histoire judiciaire française qui surgit devant la cour. Le procès de Maurice Papon, celui de Christian Ranucci, les infanticides de Véronique Courgeot, la question du droit à l'avortement, Linos Alexandre Sicilianos et le président grec de la Cour européenne des droits de l'homme.
C'était formidable parce que les thèmes qui ont été évoqués sont des thèmes qui sont évoqués dans des affaires réelles devant nous, tous sans exception aucune. Une plaidoirie peut tout changer, ça c'est sûr. Pas dans toutes les affaires que nous avons vues. Nous avons vu que les juges ont été quand même assez durs, mais dans certains cas, on l'a vu lors de la toute dernière affaire sur l'avortement. Donc là, ils ont été touchés. Et chez nous, une plaidoirie peut changer tout. Ouais, ça, c'est sûr.
Dans le public, il y a également des élèves avocats comme Théo, en stage à la Cour européenne. Il est venu prendre une leçon de plaidoirie.
On essaye de s'inspirer comme on peut sur comment tourner ses phrases plus tard, comment accentuer la gravité. Moi, ma préférée, c'était celle de Maître Leclerc pour toute l'humanité qu'il arrive à introduire dans sa plaidoirie. Et j'ai trouvé ça remarquable.
Moi, je voudrais tant qu'elle sorte ce soir. Même si ça vous paraît impossible, je vous demande l'impossible.
Éric Théobald est le metteur en scène de plaidoirie. Il n'aura eu que quelques heures pour tenter d'adapter la salle d'audience.
L'idée, c'est de rentrer comme ça, d'allumer celle-ci, là. Voilà. Et ensuite, il y a un deuxième effet avec un boom. Et on va allumer aussi l'autre. Tac. Voilà. De toute façon, on peut faire que ça. Donc éteins.
Je crois que je peux dire ça à la radio. Faire un spectacle avec trois effets, ça mérite un Molière.
Il n'y a que trois lampes.
Oui, oui. Bah oui, c'est pas une salle qui est évidemment destinée à ça. C'est pas du spectacle ici.
Finalement, c'est la solennité des lieux qui s'impose et qui apporte une émotion supplémentaire à la pièce.
C'est quand même dingue de se retrouver ici à jouer ce spectacle ici là. Vous vous rendez compte de jouer un spectacle à la Cour européenne des droits de l'homme? Vous vous dites, tiens, j'ai peut-être fait quelque chose qui fait un peu bouger les lignes.
Et après avoir conquis la Cour européenne des droits de l'homme, ses plaidoiries ont été invitées dans un autre lieu de pouvoir, à l'Élysée.
Ah oui, à l'Élysée. Merci d'abord à Yannick Collin pour ce reportage. Vous aviez joué vos plaidoiries à l'Élysée.
Oui, il n'y a pas longtemps, j'ai joué devant un public de 300 jeunes,
ouais.
Des étudiants en droit, des élèves du lycée de Montreuil, à l'invitation de Brigitte Macron et de Emmanuel Macron.
Donc il y avait aussi un autre jeune, un jeune président.
Voilà, un jeune président qui était venu prendre des leçons d'éloquence.
Ouais. Non. Et il vous en a parlé, ou Brigitte Macron vous...
Non, oui, ouais. Bien sûr, ils m'en ont parlé. Je n'ai fait que trois plaidoiries, j'ai pas fait tout le spectacle.
Ouais.
Mais
ça a du sens quand même. Alors la Cour européenne des droits de l'homme, évidemment, ça a du sens. On peut y revenir. L'Élysée aussi, jouer ce spectacle à l'Élysée. Là où jusqu'à 1980, le président décidait lui-même d'accorder ou non sa grâce pour une peine de mort, par exemple.
Et en effet, j'ai fait la plaidoirie de Ranucci pour laquelle Valéry Giscard d'Estaing a refusé la grâce.
Ouais.
Ranucci qui a été exécuté à la suite de ça. Oui, effectivement, parce que ça véhicule des valeurs.
Ouais.
La notion de justice qui est tellement remise en question aujourd'hui à travers certaines décisions qui ont été prises. Moi, je pense que c'est effectivement quelque chose d'important de mettre en avant la capacité qu'a l'avocat et la justice de donner le droit, quoi, de rendre le droit.
Eh bien, on va y revenir sur ces plaidoiries dans un instant. C'est le journal inattendu de Richard Berry jusqu'à 13h30. À tout de suite.
Le journal inattendu de Richard Berry
avec Vincent Parisot sur RTL.
En jugeant aujourd'hui, vous allez vous déterminer à l'égard de cette loi et à l'égard de l'avortement et de cette répression. Et surtout, vous ne devrez pas esquiver la question qui est fondamentale. Est-ce qu'un être humain a le droit, quel que soit son sexe, de disposer de lui-même? Je vous le dis, il faut le prononcer. Car nous, les femmes, nous, la moitié de l'humanité, nous nous sommes mises en marche. Je crois que nous n'accepterons plus que se perpétue cette oppression. Messieurs,
Il vous appartient aujourd'hui de dire que l'ère d'un monde fini commence.
Gisèle Halimi, novembre 72, tribunal de Bobigny. Elle avait choisi de faire de ce procès pour avortement une tribune, un procès politique. C'est vraiment, j'allais dire, le thème de ce spectacle. C'est-à-dire quand une plaidoirie sort du prétoire et touche la société au cœur. On peut en parler aussi avec l'affaire Ranucci.
Sur effectivement les grands phénomènes, les grands faits de société qu'on aborde dans le spectacle, c'est le cas. Parce que elle me le racontait elle-même, Gisèle Halimi, quand le procès a eu lieu, parce que ça a duré quand même quelques jours, les préparatifs. D'abord, elle a reçu des milliers de lettres venant du monde entier. Et puis surtout, Simone Veil a suivi ce procès, heure par heure, minute par minute. Et on pourrait dire aujourd'hui que sans Gisèle Halimi, elle ne serait pas enterrée au Panthéon. Mmh. Car sans Gisèle Halimi, elle ne ferait jamais passer cette loi. Mmh. Donc, son engagement, je voudrais lire une toute petite phrase qu'elle disait en préambule de sa plaidoirie. Elle disait « Je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour un parfait accord entre mon métier qui est de plaider, qui est de défendre, et ma condition de femme. Mmh. Je ressens donc au premier plan, au plan physique, il faut le dire, une solidarité fondamentale avec ces quatre femmes et avec les autres. Elles sont ma famille, elles sont mon combat. Mmh. » Voilà comment elle a abordé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle parlait d'elle-même.
Mmh. Oui, exactement. Moi, j'aimerais bien quand même que vous nous parliez un instant de vous, même si vous n'aimez pas trop. Dites-nous ce qui vous a amené à vous glisser comme ça dans la robe de ces grands avocats. La chose judiciaire vous intéresse, on l'a vu, vous avez, d'abord il y a ce film où vous racontez le dilemme de deux hommes face à l'idée de mentir pour de mentir à la justice pour sauver un copain meurtrier de sa femme.
Oui, nos femmes, oui.
Nos femmes.
Ouais, ouais.
Évidemment, il y a eu votre film sur l'affaire Ilan Halimi. Voilà, je disais, la chose judiciaire, c'est quelque chose qui vous passionne, que vous avez en vous.
Oui, il y a, en fin de compte, je pense, parce que j'ai subi, moi, l'injustice. On pourrait dire. Bah, vous savez, moi, je suis né peu de temps après la guerre, hein, je suis né en 1950. J'ai vécu dans ma famille beaucoup de déportations, enfin, de gens. Mon père qui a fait la guerre lui-même, des sœurs de ma mère qui ont été déportées. Et donc, j'ai subi très vite, très tôt, le racisme, l'antisémitisme. Et j'ai observé tout au cours de ma vie la façon dont cette forme d'injustice peut se manifester à travers le racisme, mais aussi, par exemple, à travers la maladie, avec ma sœur, etc. Donc, si vous voulez, j'ai une réaction viscérale, comme Gisèle Halimi le dit, physique, par rapport à lui. Je le ressens physiquement, l'injustice, je l'éprouve physiquement. Mmh. Et donc, j'avais envie, effectivement, d'en parler. Voilà.
Mmh. Et il y a notamment le procès Papon, hein, l'un des avocats des parties civiles, c'est Michel Zaoui. Il dit, on ne peut pas avouer, reconnaître un crime contre l'humanité.
Oui, parce que ça repose sur les épaules, ça ne repose pas sur les épaules d'une seule personne. La totalité des actes criminels sont commis par 10, 20, 30, 40, 50 personnes. C'est pour ça qu'on n'avoue jamais un crime contre l'humanité. Je veux dire aussi qu'en fin de compte, ce qu'il dit, et c'est la puissance de sa plaidoirie sur le crime contre l'humanité, c'est qu'elle touche, elle aborde tous les crimes contre l'humanité, pas spécialement celui de la Shoah.
Richard Berry, plaidoirie jusqu'au 2 décembre au Théâtre Libre à Paris, et ensuite, jusqu'au 1er décembre, pardon, et ensuite en tournée jusqu'en mai 2020. On va y revenir, évidemment, sur cette tournée, sur ce spectacle. Richard Berry, une question de Benjamin Biolay, qui était assis à votre place et qui vous a posé une question.
Bonjour, cher Richard Berry, c'est Benjamin Biolay. J'avais une question à te poser. Après toutes ces plaidoiries, s'il m'arrivait une petite galère, est-ce que tu serais prêt à être mon conseil? J'aimerais bien, merci.
Voilà. Ça vous donne des idées, ça?
J'aurais bien aimé avoir le droit et la capacité de le faire. Mon cher Benjamin, en tous les cas, avec le cœur, je te soutiendrai, c'est certain, et je te conseillerai un très bon avocat de mes amis.
On va marquer une courte pause. Rappelez l'actualité. On va écouter Richard Berry dans le rôle de Monsieur Météo, et ensuite accueillir son invité qui est là, qui se prépare, qu'on salue, Raphaël Enthoven. À tout de suite sur RTL. Richard Berry a tellement de choses à nous dire, il est 13h02.
Le
journal inattendu de Richard Berry.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
Et l'actualité, c'est l'Église qui ouvre le porte-monnaie pour reconnaître la souffrance des victimes des prêtres pédophiles. Les évêques viennent de voter le principe d'une somme forfaitaire. La nouvelle affaire Polanski, à quelques jours de la sortie de son J'accuse sur l'affaire Dreyfus. Le cinéaste est accusé par une femme âgée aujourd'hui de 62 ans de l'avoir violée en 1975. Des faits aujourd'hui prescrits, mais des témoins confirment son récit. Le cinéaste, lui, dément. Le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, des cérémonies modestes aujourd'hui dans la capitale allemande. Angela Merkel, originaire d'Allemagne de l'Est, vient de prononcer un discours en compagnie des présidents slovaques, polonais, hongrois et tchèques. La liberté de Lula, l'ancien président brésilien, a quitté cette nuit le siège de la police après plus de 8 ans de détention. Lula a été accueilli et applaudi par des milliers de ses partisans. Il n'a pas passé 8 ans de détention, mais plus d'un an et demi de détention. Attention, si vous voulez prendre le train dans le sud-ouest, en Nouvelle-Aquitaine, après les très fortes pluies de ces derniers jours, les voies sont inondées sur les axes Bordeaux-Hendaye, Bordeaux-Tarbes. Trafic interrompu dans les deux sens, au moins jusqu'à mardi midi. Le tennis, la finale de la Fed Cup. Un point partout entre la France et l'Australie. Ça n'a pas été facile pour Caroline Garcia ce matin. Elle s'est inclinée 6-0 face à la numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty. Le football, un partout hier soir entre Nice et Bordeaux. 17h30, Brest-PSG. Et puis alors, le temps, c'est maintenant le grand moment. C'est vous, Richard Berry, monsieur alors, météo.
La météo cet après-midi sera pluvieuse sur une large moitié ouest du pays avec de fortes rafales de vent en Vendée et en Charente notamment. À l'est, les éclaircies devraient se maintenir. Elles seront d'ailleurs très belles en allant vers les Alpes et la Méditerranée. Seule la Corse aura un temps orageux. Les températures iront de 16 à 17 de Belfort à Toulon. Il fera 9 à Paris et Reims, 12 à La Baule.
Ah ben vous faites ça très bien.
Ouais, je l'ai fait comme un spécialiste.
Je peux vous dire, c'était
pas essayé d'interpréter.
Non, voilà. C'était magique.
Avec le temps, va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien.
On n'a pas envie de l'interrompre, évidemment. Non. Chanson emblématique, peut-être la plus célèbre de Léo Ferré sur le temps qui efface tout, sur la fuite des sentiments. C'est un texte qui vous parle, vous qui avez eu plusieurs épouses.
En tous les cas, c'est un texte qui me bouleverse. Je trouve que c'est en termes de chansons,
ouais.
Je crois que c'est une des plus grandes chansons que j'ai jamais entendues. Quant à la qualité du texte, l'harmonie qu'il y a avec la mélodie, c'est absolument magnifique. Puis en plus, moi j'ai eu la chance de le voir sur scène. Léo Ferré, c'était quand il chantait ça, c'était bouleversant, c'était magnifique, de simplicité.
Ouais, alors, le temps effectivement efface les sentiments, peut-être, parfois. Le temps permet aussi de se bonifier.
Il efface pas les sentiments. Il les érose.
Ouais.
C'est pas tout
les arrondit.
Il les arrondit. Ouais.
Ouais. Je parle du temps parce que et de la bonification avec le temps parce que je sais pas vous avez sans doute lu il y a deux semaines dans le journal du dimanche la journaliste Anna Cabana qui expliquait que vous aviez une réputation pas très bonne, très éloignée de la réalité et là je peux en témoigner effectivement.
Ouais.
Est-ce que vous vous êtes adouci avec l'âge?
Non, mais moi, je réfute cette réputation.
Alors, comment ça se
fait ? Mais vous savez, il y a énormément de gens qui ont des réputations formidables et qui sont de véritables enfoirés.
Ouais.
Alors, je me dis que voilà, c'est comme ça. On aime bien continuer de véhiculer cette image. Moi, je me vois pas correspondre du tout à cette image-là. Mmh. Et donc, voilà, je veux pas développer plus que ça.
Mais on développe pas, d'ailleurs. Hein. Mais par contre, on accueille votre invité.
Avec plaisir, oui. Remarquable, très...
Très flatté. La mauvaise réputation de Richard à cette occasion, je ne savais pas qu'il avait mauvaise réputation.
Alors, moi, j'allais dire pas vraiment non plus.
La réputation d'un tombeur, bien, ça.
Mais du coup, à partir de ce papier du journal du dimanche, je me suis un petit peu renseigné. Effectivement, vous aviez la réputation, on va dire, de quelqu'un pas forcément super chaleureux avec les journalistes, par exemple.
Bah, mais, non, c'est pas ça. Là, c'est faux. C'est faux, je m'insurge.
Eh ben, moi aussi, je m'insurge. Pourquoi, Raphaël Lentoven?
Parce qu'il est pour moi d'abord un vrai penseur.
Ouais.
C'est quelqu'un de qui j'aime bien avoir l'avis quand je lis ce qu'il écrit sur certains faits de société aujourd'hui, j'aime bien la réflexion qu'il porte, j'aime bien la façon dont il la porte, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de respect et d'empathie à chaque fois, évidemment d'intelligence, c'est sûr. Et puis, il m'est chaleureux au cœur quand je le vois, quand je l'entends parler, et j'avais envie de l'avoir à mes côtés.
Voilà. Bonne introduction.
La réciproque est tellement vraie que je ne veux rien ajouter à cette introduction.
Bonjour Raphaël Entoven.
Bonjour.
Vous avez publié fin août Imaginé, inspiré de l'émission que vous proposiez sur Arte. Ce sont de brefs récits qui s'adressent aux ados sur des sujets fondamentaux, illustrés par
Chen Jiang Hong. Ouais,
magnifique.
C'est un peintre merveilleux. Il n'y a que son nom qui soit difficile à dire. Le reste va de soi.
Alors, comme on parle beaucoup justice, j'ai retenu deux textes sur la justice. Sur la peine de mort, vous dites « Ce qui est légitime n'a pas toujours vocation à devenir légal ».
Oui, c'est une réflexion de Camus dans les réflexions sur la guillotine. Camus prend l'exemple d'un père de famille qui voit son enfant mourir ou qui a des raisons légitimes de s'en prendre à l'assassin de quelqu'un et qui donc va... Si un père de famille tue l'assassin de ses enfants, il n'est pas incohérent qu'il soit également hostile à la peine de mort, en fait. C'est ça l'idée. C'est qu'il doit se constituer prisonnier ensuite. La vengeance n'est pas la justice.
Au moment du débat sur la peine de mort, avant 1981, c'était souvent quelque chose, c'était souvent un argument qui était présenté par les défenseurs de la peine de mort.
National.
Si votre enfant était tué, vous seriez pour la peine de mort.
L'argument était, depuis quand la phrase exacte était, depuis quand la vie d'un assassin vaut-elle plus que celle de sa victime ? Ce qui est un argument qui a l'air imparable comme ça, quand on le lit. Or, en réalité, ça ne tient pas parce que c'est un argument qui confond la justice et la vengeance. Le rôle de la justice n'est pas de venger les uns de l'offense subie. C'est différent. Ça n'est pas le même geste. Si la justice n'est plus que la vengeance, la loi n'est plus que la loi du talion. Et en vérité, on ne peut plus vivre ensemble. Donc la vocation de la justice est autre chose. Donc il faut penser la peine de mort séparément de l'idée de vengeance. Et la concevoir, alors cette fois-ci, par rapport à l'idée même de démocratie, dans quelle mesure elle est compatible avec, et je crois qu'elle ne l'est pas.
Le procès Ranucci, c'est évidemment un moment fort dans le spectacle. Vous l'avez vu
Bien sûr, j'ai vu, j'ai adoré ce spectacle. J'ai trouvé ça absolument admirable. J'étais content que vous parliez de Ranucci ou de la plaidoirie de Gisèle Halimi, qui sont vraiment des moments, à mon avis, majeurs. Mais pour en revenir à Ranucci, moi, je me souviens surtout du témoignage de Giscard lui-même, qui n'arrivait plus à trouver le sommeil. Il savait qu'à cet instant-là, quelqu'un était abattu en son nom, en somme, ou par lui, via lui. Et c'était quelque chose d'insupportable.
Et qui n'a pas accordé sa grâce parce que dans l'actualité, un autre événement est venu télescoper sa décision. C'est ce qui s'est passé.
C'est la force de l'opinion publique, de ce que dénonce à l'instant Raphaël, c'est-à-dire la légitimité, la pseudo-légitimité de l'opinion publique. Et d'ailleurs, on retrouve ça aussi aujourd'hui.
En permanence. Le recouvrement de la légalité par la légitimité. C'est-à-dire qu'on considère qu'on a le droit de faire telle ou telle chose, même si c'est illégal, dans la mesure où c'est légitime.
Même l'intervention, par exemple, du public dans le choix. Yasmina Reza, elle a un très beau chapitre dans un de ses livres sur la légitimité du public.
Oui, bien sûr.
Qu'elle remet énormément en question. Oui. Et aujourd'hui, on fait énormément intervenir le public dans les votes, par exemple, dans les radio-crochets ou les télé-crochets qu'on voit en ce moment.
Vous citez également dans votre texte Voltaire, dans Zadig. Oui. Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent.
Et il faut remettre les choses dans leur contexte. On est au chapitre 6 de Zadig, et Zadig est injustement accusé d'avoir dérobé le cheval du roi et le chien de la reine. Et il formule à cette occasion, Voltaire formule à cette occasion un précepte qui devrait être inscrit au fronton de toutes les démocraties, qui est qu'il vaut mieux en démocratie libérer un coupable au bénéfice du doute qu'emprisonner un innocent au détriment du doute. Nous sommes dans un régime de liberté là où des coupables se promènent parce qu'on n'a pas réussi à les condamner. Nous ne sommes pas dans un régime de liberté là où des innocents sont en prison parce qu'ils sont peut-être coupables. Ouais. Les Khmers rouges avaient exactement le précepte inverse. Mieux vaut un innocent en prison qu'un coupable en liberté. C'est toute la différence entre une démocratie et une dictature.
C'est vrai que c'est
pas très compliqué,
c'est
en fait.
C'est imparable.
Ouais, c'est imparable. Mais j'ai envie de dire que le philosophe comme l'avocat sont dans la quête de la vérité brute. La vérité sans j'allais dire...
Si vous me le permettez, oui, Vincent, je dirais pas ça. Ah. Dans la mesure où un avocat, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la profession d'avocat, au départ celle de sophiste, était à l'origine de l'idée même de démocratie, un avocat défend son client. Et donc il doit trouver des éléments de vérité dans la défense de son client, quand bien même lui-même n'y adhérerait pas. Il y a dans la profession d'avocat, et je crois que c'est sa grandeur, un deuil de l'idée de vérité absolue. Même si bien des plaidoiries consistent à rétablir la vérité sur quelqu'un qui est injustement accusé. Donc c'est un tout petit peu différent. Et la démocratie elle-même repose sur le deuil de la vérité. Si vous avez une opinion et que vous la prenez pour la vérité, dans un débat démocratique, vous ne laisserez pas de place à l'autre. Il n'y a pas de place pour l'autre quand on est convaincu de la détenir, c'est-à-dire de la mettre en détention. Donc non, il faut, en philosophie, à la fin d'une vérité, regarder celle d'en face, et quand on plaide, s'intéresser moins à la vérité qu'aux circonstances qui pourraient sauver quelqu'un.
Ouais. Je dis ça parce que vous insistez là-dessus dans le spectacle.
Et Leclerc, Ranucci se fait traiter d'imbécile par son avocat.
Bien sûr, Leclerc dit il faut éclairer les faits d'une façon différente. Ça correspond exactement à ce que vient de dire Raphaël à l'instant.
J'en profite, Raphaël Enthoven, pour dire que vous publiez votre première BD avec la dessinatrice
Je suis très
Charlie.
Heureux de faire ça. Oui.
Coco, c'est une adaptation du Banquet de Platon. Alors là encore, c'est ambitieux.
Non, on parle d'amour tout simplement. Ouais. On parle d'amour. Et puis vous savez, c'est un texte magique en un mot. C'est un texte qui transforme en mythologie et en mythe toutes les façons que nous avons d'aimer aujourd'hui. Si vous croyez que l'autre est votre moitié d'orange, vous lisez dans Le Banquet le mythe d'Aristophane et vous découvrez l'ancêtre de vos sentiments.
Le Banquet, donc, évidemment, d'après Platon, avec les dessins de Coco, Raphaël Enthoven. Et puis, franchement,
Alors, les dessins, c'est pas moi. Hein,
non,
j'insiste.
Dessins sont de Coco.
Oui, vraiment.
Et puis, magnifiquement illustré par Chen Jing Hong. J'insiste surtout si vous avez des enfants, enfin, de jeunes ados, parce que c'est magnifique. C'est sorti à l'école des loisirs.
Merci.
C'est vrai que c'était limpide. C'est un plaisir de recevoir Raphaël Enthoven.
C'est un plaisir réciproque.
À chaque fois. Ouais. Vous revenez quand vous voulez.
Mais invitez-moi, je serai là. À bientôt.
Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Mais vous pouvez évidemment rester avec nous puisque on revient dans un instant sur la carrière de Richard Berry qui est à la tête de ce journal inattendu pour encore un bon quart d'heure. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL. Avec Richard Berry et Vincent Parisot.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris.
Évidemment, je me voyais déjà à Aznavour, c'est un de vos choix musicaux, parce que vous aimez Aznavour, j'imagine.
J'adore Aznavour, ouais. Je voulais lui rendre un tout petit hommage. Ouais. Et en même temps, la façon dont il résume en si peu de mots le rêve de tous les acteurs, les jeunes acteurs, de tous les jeunes chanteurs, tous les artistes à un moment donné.
Ce que vous avez vécu vous-même, 1974, vous êtes déjà à la Comédie Française, et au cinéma, vous avez un petit rôle, vous jouez un élève du lycée Louis Legrand, qui encourage ses copains lors d'un match de foot, c'est la gifle de Claude Pinoteau.
Allez Louis Grand.
On vous entend bien. Allez Louis le Grand, feignant.
J'avais une petite scène quand même.
Exactement.
Un peu plus tard dans le film. Avec Ventura quand même. Oui. Il m'a donné la réplique. J'ai donné la réplique à Ventura.
Et pourtant, vous êtes peut-être crédité au générique, mais alors en tout petit à la fin.
Oui.
Déjà à l'époque, vous voyez en haut de l'affiche.
Oh bah, j'étais à la Comédie Française quand même, j'avais déjà eu l'occasion de jouer des rôles.
Oui, mais vous imaginiez la carrière que vous alliez faire.
Écoutez, j'avais peur, j'étais pas très rassuré.
Ouais.
Je me disais, mais c'est sûr que moi j'ai toujours voulu faire du cinéma. En fin de compte, le théâtre est venu en attendant.
Vous avez fait la Comédie Française en attendant de faire du cinéma.
J'étais conservateur en attendant. Ouais. Je suis rentré à la Comédie Française en attendant. Et puis là, le cinéma, je m'a donné l'occasion de pouvoir faire un film avec le film de Chouraki, Mon premier amour, avec Anouk Aimée. Et là, ça a commencé, ça a démarré. Quoi.
On l'écoute d'ailleurs.
Tu t'intéresses, vous êtes Adam de Fabienne ou c'est pour m'emmerder?
Richard, je t'ai expliqué déjà que j'étais pas ton petit copain.
Non, pardonne-moi, maman, mais tu sais, je suis un peu... Mais toi aussi, on peut rien dire sans que ça t'énerve.
Alors là, on sait que la carrière décolle, et puis 82, la balance, évidemment.
Dédé Lafond.
Le grand Dédé. Un vrai de vrai. Braquage du Crédit Lyonnais.
Ah, non-lieu.
Fusillade du Névi.
Acquitté.
Casse de la rue Choiseul. 3 ans de prison.
Ah oui, erreur judiciaire.
Et bien d'autres. Souvent inquiété.
82, c'est aussi l'année du Grand Pardon, avec Roger Hanin. C'est l'année Richard Berry.
Bon, je sais pas.
En tout cas, la même année, c'est... La Balance, ouais. qui fait un énorme carton au cinéma, ouais. Le Grand Pardon, pareil. Oui, vous êtes la star de l'année 80.
Oui, ça s'est bien passé, quoi, ouais. Voilà. Mais bon, vous savez, l'important, c'est de durer, hein, dans ce métier.
Vous l'avez démontré, mais c'est vrai qu'à cette époque, vous devenez, aujourd'hui on dit bankable, mais vous devenez un acteur absolument incontournable. Et, non, mais ça ne demande pas d'ailleurs forcément de commentaires. Vous vous souvenez bien de cette époque? Et est-ce que vous vous souvenez bien de l'époque d'avant?
Bien sûr.
C'est vrai?
Oh, bien sûr.
L'époque des vaches maigres.
Oh là là, oui, les castings où on vous dit trop brun, trop petit, pas jamais le personnage, et puis après, c'est exactement l'inverse. Tout d'un coup, on vous trouve le personnage pour des rôles, voilà, pour tout. Pour des rôles même qui n'ont rien à voir avec vous.
Ouais. Tiens, je vous demande ça parce que Dominique Besnéard, qui était assis à votre place il y a deux semaines, vous a posé une question.
Richard, on se connaît depuis très longtemps, on ne va pas dire en quelle année, mais peut-être au milieu des années 70. On a été assez proche d'un groupe d'acteurs après la Comédie française. Il y avait Jean-Luc Boutet, Catherine Hegel qui était ta femme, et d'autres acteurs. On se retrouvait dans quel restaurant? C'était ces restaurants d'acteurs qui n'existent plus. On refaisait le monde et on avait des rêves. Te souviens-tu de ce restaurant?
Alors, question test mémoire de Dominique Besnéard.
Il me semble que c'est tel Sherwood ou Sherruck.
Qu'est-ce que vous avez dit comme nom?
Le Sherwood, soit un petit peu plus tard, ou Sherruck.
Non, alors lui ne nous a pas dit ça. Ah, il nous a dit le coupe-chou.
Ah oui, le coupe-chou. Ah oui, non. Ah oui, là, c'était... Oui, parce que c'était devenu la soupe populaire, le coupe-chou. Ouais. Parce que c'était des acteurs qui avait monté ce restaurant qui marchait très très bien et dans lequel on allait sans argent
et vous mangez.
On mangeait, on payait pas.
Oh bah génial.
On était invités.
Tiens, encore un de vos choix musicaux.
Ton corps bébé, ouais, ok, ça roule. Tu deviens insaisissable à ton contact, l'air est humide. C'est comme une étincelle dans ton regard à vie.
Voilà, vous l'avez reconnu évidemment, ouais. NTM, Joe Star, dans ma Benz. Pourquoi?
Bah d'abord,
c'est un ami?
J'aime beaucoup, oui. Enfin, un ami, je sais pas, mais en tous les cas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Joe Star. J'aime bien ce qu'il fait. Et puis, ce titre-là, bah, ça fait plusieurs fois qu'il est dans ma carrière. Je l'ai utilisé dans un de mes films qui était mon premier, moi César, 10 ans et demi, 1m39. Mmh. Et puis après, je l'ai réutilisé à nouveau dans Nos Femmes, sur lequel je fais une petite chorégraphie.
Oui, oui, exactement.
Je le faisais au théâtre et dans le film.
Et vous le faites très bien.
Et puis j'aime bien ce groupe, ouais.
Et vous l'avez vu dans Elephant Man avec Béatrice Dalle?
Non, bah, je jouais moi-même à cette époque-là, donc je pouvais pas.
Bon.
J'irai, il paraît qu'ils reprennent.
Oui, oui, ils vont reprendre. Voilà. Ce qu'on va faire, nous, c'est marquer une pause, justement, et nous aussi reprendre dans un instant avec une petite surprise pour vous. A tout de suite, Richard Berry.
Richard Berry est l'invité du journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu de Richard Berry
avec Vincent Parizeau sur RTL.
Richard Berry, qu'il faut absolument aller voir sur scène dans ses plaidoiries. C'est jusqu'au 1er décembre à Paris au Théâtre Libre. C'est le dimanche, lundi et le mardi. Et ensuite, dans toute la France, 113 dates. Mais c'est une tournée de rocker quand même. 113 dates. Même Johnny, je ne suis pas certain qu'il faisait 113 dates. Donc ça veut dire que tout le monde pourra aller vous voir.
Presque tout le monde. Il restera encore pas mal de villes à faire.
Vous n'avez jamais fait ça?
Non, jamais. Ouais.
C'est absolument étonnant. On a une surprise pour vous, quelqu'un que vous connaissez, que vous appréciez. En tout cas, je crois, il est avec nous en ligne. Bonjour Stéphane Plaza.
Bonjour.
Le grand sportif.
Oui, bravo Stéphane. Vous êtes rentré de New York cette semaine. Vous avez fait le marathon de New York. Bravo.
Et je ne l'ai pas fait en revenant sous perfusion, c'est ça qui est exceptionnel.
Ouais, c'est absolument incroyable. Qu'est-ce qui vous a fait courir ce marathon d'ailleurs, Stéphane?
C'est-à-dire que j'ai bu un peu trop de vodka un soir et j'ai fait un pari à la con.
Et vous l'avez tenu.
Ouais.
Voilà. Et chapeau, parce qu'on sait, alors, pour ceux qui vous connaissent un peu, que ça a été quand même sans doute un sacré défi pour vos jambes qui, dans le passé, vous ont causé bien des soucis. Hein.
C'est ça. Puis ma préparation était quand même assez exceptionnelle. Une nouvelle méthode, des massages au rosé, ça s'est bien passé.
Massage au rosé, c'est le secret de Stéphane Plaza. Vous connaissez bien tous les deux. Richard Berry, vous connaissez Stéphane?
Moi, j'aime beaucoup Stéphane Plaza.
C'est pour ça qu'on l'a invité.
J'aime beaucoup, je trouve qu'il est... humainement, il a une qualité magnifique. Il est d'une générosité, d'une empathie formidable.
Vous n'êtes pas étonné qu'il soit l'animateur préféré des Français?
Non, j'en suis même très content. ans et ouais. je trouve ça normal pour ce qui le concerne, ouais. Oui, parce qu'il le mérite amplement. Ouais.
Alors Stéphane Plaza sur M6 évidemment, mais Stéphane Plaza comédien, et j'ai lu Stéphane que votre rêve c'était de jouer, de tourner avec Richard Berry.
Ben on se connaît. Alors ça va se faire, tout dans la vie, tout est écrit. Mais ça marche tellement fort, ta pièce, c'est tout les faire. Là, on prend du retard.
Mais c'est envisageable, ça, pourquoi
mais
pas.
Bien sûr, pourquoi pas. Ouais. Oh non, mais bien sûr. À un moment donné, pourquoi pas écrire dans un film un rôle. Mais d'ailleurs, c'est pas. Ouais, non, j'ai des idées pour ce qui le concerne.
Ah ouais.
Vous voyez, vous avez un scoop. J'ai bien fait d'appeler, moi.
Vous avez bien fait de nous appeler, effectivement, Stéphane Plaza. Il a des idées pour vous, Richard Berry. Parce que, évidemment, jouer aussi Stéphane Plaza, vous avez déjà commencé à le faire. Vous en avez envie.
Oui, bien sûr, c'est un tel bonheur aussi quand ça marche bien de transmettre des choses, d'écrire, enfin de transmettre des mots et surtout d'avoir de l'émotion. Donc,
mais au départ, il est comédien, Stéphane.
Oui. Il sait tout sur moi, vous avez vu.
Voilà. Ouais. Faut le rappeler quand même. Hein.
On le rappelle. D'ailleurs, on l'avait reçu ici même, Stéphane Plaza. On vous salue, on vous embrasse, Stéphane Plaza. À très bientôt, évidemment, sur M6 et puis peut-être un de ces quatre sur scène ou à l'écran, pourquoi pas, avec Richard Berry qui était l'invité, le rédacteur en chef de ce journal inattendu. C'était un vrai plaisir à Paris jusqu'au 1er décembre et ensuite dans toute la France avec ce formidable spectacle Plaidoirie. Merci beaucoup.
Merci à vous, Vincent.
Richard Berry. Et dans un instant, Confidentiel avec Jean-Alphonse Richard, un confidentiel consacré aujourd'hui à Yves Mourouzi. Bon samedi.